7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le plaisir féminin est-il encore un tabou de société ? L'affaire Weinstein et le mouvement MeToo a lancé le débat sur le consentement sexuel des femmes, mais est-ce qu'on parle pour autant du plaisir féminin ? Pas tant que ça. Tantôt perçu par les hommes, il faut dire, comme un danger, parce que signe d'une émancipation, d'une conquête des droits des femmes, il représente aussi, il faut bien le dire, un symbole de puissance pour ceux qui ont quelque chose à offrir. De là à en parler ouvertement en société, ça se complique. Certes, sur Internet, les langues se délient plus facilement, à moins que le plaisir féminin ne devienne un bien-être comme un autre. À New York, après tout, des séances de coaching entre femmes pour atteindre le nirvana coûtent très très cher. Alors, du tabou à l'étalage de sa félicité, comment parler du plaisir féminin ? Appelez-nous les voisins et les voisines, surtout, y compris si le sujet vous dérange. D'ailleurs, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp et vous pouvez nous envoyer des messages écrits. Je vous présente nos invités dans le studio. Axel Ja, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la fois une militante au sein du GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles et des mariages forcés. Et vous êtes une observatrice, une fine observatrice de la parole des femmes avec le site parlonsplaisirféminin.com et en particulier des femmes noires hein, sur la sexualité, puisque vous le revendiquez comme ça avec une série de podcasts remarqués. Me, My Sex and I. Traduction en français, moi, mon sexe et moi. Si jamais on avait un doute sur l'individualisme de nos sociétés, il est levé. Également avec nous, Diretou Diallo, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 25 ans, vous êtes blogueuse, activiste, présidente du collectif Guinéenne du 21e siècle et vous êtes installée en France à l'heure actuelle depuis pas très longtemps.
Hein. Depuis 2011.
Depuis 2011, voilà. Donc vous avez déjà deux vies et vous aurez beaucoup de choses à nous raconter, à nous apporter sur la façon dont on parle de la sexualité dans ces deux pays maintenant que vous connaissez, la Guinée et la France. On sera également en ligne avec Jeannine Mossu-Laveau dans quelques minutes, célèbre sociologue spécialiste des droits des femmes, sa toute dernière enquête, La vie sexuelle en France. Elle est directrice de recherche émérite au CNRS et au CEVIPOF et elle nous dira dans cette dernière enquête ce qui a changé dans la façon de parler de la sexualité 17 ans après sa première enquête. Je vous lis quelques messages Facebook, mesdames, que vous pouvez évidemment commenter. Une auditrice nous envoie le message suivant du Canada. Elle dit que le plaisir féminin a toujours été un tabou. Vous voyez comme j'ai fait un lapsus, hein. C'est pas désir, c'est plaisir, c'est pas pareil. Ça a toujours été un tabou et il le restera, à mon avis, nous dit Lilia, puisque même les femmes entre elles n'abordent jamais ce sujet. La cause, une grande gêne dans les gènes, apparemment. Dans ce domaine du plaisir sexuel, on dirait qu'il n'y a pas de place ou qu'il n'y a de place que pour l'homme et que la femme est asexuée. C'est son point de vue. Katombe Abdallah Eric en RDC nous dit qu'à son avis, il pense qu'il n'y aurait plus de tabou si seulement les filles sortaient un peu de leur hypocrisie. Pour lui, elles se cachent derrière la gêne soi-disant, elles en parlent en chuchotant. Sous-entendu, si j'ai bien compris ce qu'il veut dire, un peu pour être considérée comme une fille convenable, est-ce que c'est ça l'attitude qu'on attend des filles finalement dans certains pays ou pas ? Comment vous voyez les choses, Diretou ?
C'est vrai qu'il y a une gêne qui est installée. On a l'impression qu'elle est, que c'est quelque chose qu'on a hérité.
Aussi.
Voilà, et ça fait bon genre, ça fait bien de passer pour timide. Mais comme j'ai eu à le dire, c'est vrai qu'il y a cette part-là. Mais au final, est-ce qu'on a habitué nos filles à connaître leur corps, à aller à la quête de leur corps? Donc c'est vrai, on a hérité, si vous voulez, cette attitude-là pour passer pour une, en général, pour passer pour faire
pour une
fille bien élevée. Mais au-delà de ça, est-ce que vraiment, moi, voilà, la question à se poser, c'est au niveau de l'éducation. Ouais. Il faut aller vraiment.
Alors, et de la transmission.
Exactement.
Et de la transmission. Pour le coup, je vais reprendre ce qu'a dit Lilia. Effectivement, c'est au niveau des gènes que ça se passe. Ça interroge sur la manière dont on transmet cette question-là entre mère et fille. avant même la société.
Ouais. Alors, ceci dit, y en a qui ne sont pas du tout d'accord hein, sur nos réseaux sociaux. 10 mots à Libreville au Gabon. Mes copines et moi, on en parle avec beaucoup d'aisance sur notre forum. Il y a celle qui raconte et qui donne tous les détails sans se faire prier. Description physique du mec, taille et forme du pénis, ce que le gars a fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a aimé, comment et à quel moment elle a eu son orgasme. Et il y a celle qui écoute et qui répondent avec des émoticônes ou des cris écrits. Hey, yeah, waouh, qui est mama, ah ça. Voilà, ça c'est le message de Dibon.
Bien détaillé.
Le même détail revient toujours. J'ai fermé les yeux, les autres répliquent, il fallait les garder grands ouverts. Et on rigole. Et le seul garçon du groupe dit, Mélione, vous me dépassez, vous êtes irrécupérable. Et on éclate de rire. Mais quand le gars a été nul, alors là, c'est le massacre assuré. Et encore des rires, poursuit Dimo. Mais sérieusement, parler du plaisir féminin entre femmes ne devrait plus être un sujet tabou dans la mesure où partager son expérience peut aider d'autres femmes. Nombreuses parmi nous ne connaissent pas le Kama Sutra et en discuter de vive voix, c'est beaucoup mieux qu'aller sur YouTube.
Est-ce que je peux rétablir le fait que le plaisir féminin n'a rien à voir avec la maîtrise du Kama Sutra? Je pense que c'est d'abord un rapport entre soi et soi-même, et que le sexe, avant même de faire référence à une relation avec un partenaire éventuel, ça devrait être une relation à soi-même, donc à son propre sexe, à son anatomie, à sa vulve, à la connaissance de soi-même et au plaisir qu'on peut se prodiguer seul avec nos 10 doigts.
Donc vous êtes contre l'idée d'un mode d'emploi culturel?
C'est un mode d'emploi, enfin, parce que le culturel est certes prépondérant dans certains cas de figure, mais je pense que c'est vraiment d'abord quelque chose qui se situe au niveau de l'intime et de la transmission, au niveau de la famille, au niveau de la mère, au niveau de la manière dont la féminité s'incarne, ouais, au sein du cercle familial dans lequel on grandit, en fait.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je lisais le message d'une voisine, j'ai lu plusieurs messages de voisines. Il y a un voisin qui lit pas du tout, qui ne comprend pas du tout le sujet comme nous, on vient de le décrire. Jules Manga, au Sénégal, nous dit comment manager sexuellement son mari, par exemple, ça, c'est un bon sujet. Voilà, sous-entendu qu'on propose pas le bon sujet aujourd'hui. Je conseille aux femmes de bien débattre sur ça. À une certaine période, cette histoire du plaisir féminin ne sera plus tabou, c'est une question de temps. Mais on sent bien qu'il veut revenir à comment manager son mari.
C'est ça en fait, c'est qu'il y a une primauté du plaisir sexuel masculin qui est mis sur un piédestal. C'est... Alors celui de la femme est relégué.
Alors, ça peut être manager son mari pour le plaisir de
mais
la femme.
Mais pourquoi pas manager...
rien.
Pourquoi pas manager sa femme au final? Pourquoi pas manager les deux? Pourquoi le mari? Pourquoi la notion masculine tout de suite doit sauter? Ça concerne tout. Ça concerne les deux parties dans un couple. Et on le voit souvent dans les sociétés patriarcales, c'est que le plaisir masculin est vraiment mis sur un piédestal. C'est ce qu'on apprend aux femmes, c'est ce qu'elles doivent savoir faire pour retenir leur homme. Elles doivent savoir générer du plaisir dans le couple. Sauf que le plaisir, c'est, comme elle l'a dit, c'est un corps à corps. Et au final, ça nous concerne tous les deux.
On nous apprend depuis toute petite qu'un homme, ça se retient par le ventre et le bas-ventre.
Exactement.
Donc ça veut bien dire quelque chose.
Bon, le débat est bien lancé, je pense. Le plaisir féminin est-il encore un tabou de société? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
Mais tout de suite, écoutez le témoignage de Marie, 35 ans. Elle raconte très simplement son histoire avec la masturbation au micro d'Alice Milo.
Bah, la première fois que j'ai découvert la masturbation, je pense que je devais être en CE1. Et en fait, c'était le rebord de table à l'école.
Vous aviez 7-8 ans, vous vous frottiez en fait contre un rebord de table, c'est ça?
Tout à fait. Mais je me suis dit, mais comment ça se fait que ce rebord de table fasse cet effet-là? Qu'est-ce qui fait en fait que je ressente ça? Et puis du coup, en fait, au final, j'en ai parlé avec mon père. Puis mon papa m'a expliqué du coup en fait que c'était normal, que du coup c'était le sexe était aussi du plaisir et que du coup on pouvait avoir un plaisir seul face à soi-même en fait, et que c'était vraiment tout à fait logique, bien de le vivre comme ça en fait, que c'était pas du tout quelque chose qui était désagréable.
Enfin, votre papa ne vous a pas du tout complexé en fait là-dessus?
Ah, mais je pense que ça a déterminé toute ma vie sexuelle, mais que ce soit de moi à moi, de masturbation, de découverte de son corps, jusqu'à ma vie sexuelle avec des hommes, quoi. Sincèrement, je pense que ce regard en fait bienveillant, vraiment attentionné et puis sans aucun préjugé en fait de mon père, a fait en sorte du coup que j'ai pu vraiment me dire mais oui, mais c'est normal, c'est bien, c'est important.
Vous découvrez ça petite fille et ensuite vous en faites une habitude?
Ah ben complètement. Depuis que j'étais en CE1, ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Ça a toujours fait partie de ma vie.
Bah en fait, en grandissant, j'ai beaucoup aidé des amis très proches, en fait. Quand j'étais en prépa, j'étais dans un internat, hein, les filles, ça discute entre elles, hein, on avait que ça à faire en plus, donc c'était vraiment des moments où je leur disais, quoi, mais tu fais quoi ce soir, t'es un peu stressée, bah vas-y, assure-toi, c'est quoi ce bazar. Et du coup, au début, c'était un peu, c'était à beau et tout, bien sûr, c'est hyper déstressant, les filles, faut y aller. Donc du coup, voilà, j'ai essayé de leur montrer, non, mais de leur expliquer, en fait, avec des schémas, des dessins, comment prendre du plaisir, avec elle, comment est-ce qu'on peut faire, enfin de pas hésiter quoi.
Quand vous étiez en couple, a priori vous pouviez avoir le plaisir sexuel que vous vouliez. Pourquoi continuer à avoir un plaisir sexuel de soi à soi?
Mes filles, je suis désolée de vous le dire, mais en fait de nous à nous, il y a quand même un truc que le gars pourra jamais avoir. Quand on travaille vraiment bien sur l'entre-soi, donc de soi à soi, clairement le gars va pas vous donner le plaisir en fait qu'on se donne personnellement. Parce qu'en fait, la montée, on sait exactement où elle est, on sait exactement quand est-ce qu'on la trouve, comment on la trouve. Et du coup, c'est beaucoup plus complexe. Alors, je dis pas par contre que la sexualité à deux, attention, hein, surtout pas, hein, c'est complémentaire. Il faut toujours se dire que quand on travaille dans son côté, c'est un exercice pour la suite, donc le plaisir sera meilleur à deux, quoi. En soi, c'est une richesse de se masturber, sincèrement, je le pense, même depuis le début de ma vie. Et je pense que quand je serai une vieille mamie et que je serai vraiment, j'aurai plus personne qui voudra faire l'amour avec moi, ou j'en sais rien. Hein. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que jusqu'au dernier moment, si je peux mourir avec un orgasme féminin, et ben je serai heureuse, quoi, sincèrement.
Alors, pour commenter ce témoignage et aussi sur le fait comment un rebord de table peut s'inviter dans le débat public sur le plaisir féminin, on est en ligne avec Janine Mossulaveau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS et au CVPOF à Sciences Po. Votre dernière enquête, La vie sexuelle en France, qui est parue chez La Martinière, était une enquête que vous aviez déjà menée en 2000. Alors, 17 ans après, à la lumière du témoignage qu'on vient d'entendre, est-ce que la parole des femmes et des hommes a évolué sur le plaisir féminin ?
C'est une parole qui a beaucoup évolué. De deux manières. D'abord parce que les femmes en parlent. Spontanément d'ailleurs, sans que j'ai eu besoin de poser beaucoup de questions. Et elles le décrivent, alors là je leur ai demandé quel était leur ressenti au moment du plaisir sexuel maximum. Et elles répondent, elles disent un certain nombre de choses. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les hommes disent, en tout cas un certain nombre de ceux que j'ai interviewés, que leur plaisir à eux, leur plaisir maximum, c'est quand leur partenaire jouit. Donc ils se préoccupent, disons, de tout ce qui peut les faire jouir. C'est bienvenu, parce que beaucoup de femmes, dans la précédente enquête, se plaignaient de ce que on appelle abusivement les préliminaires, parce que c'est aussi important que ce qui suit, soit souvent négligé par leur partenaire. Donc les choses changent, et en bien, et des deux côtés en même temps.
Votre enquête de terrain, elle s'est achevée en fait pratiquement au moment où démarre l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo, Janine Mossulaveau, qui a précisément libéré la parole des femmes, mais sur les agressions dont elles sont victimes, sur la notion de consentement en sexualité, qui était aussi un sujet d'ailleurs dont on parlait très peu, hein, le consentement. Quels effets, à votre avis, sur la place du plaisir féminin dans la parole des femmes et des hommes aujourd'hui ?
Alors, mon enquête s'est terminée en novembre 2017, c'est-à-dire j'étais sur le terrain de janvier à novembre 2017, et tout ce que j'entendais montrait une telle libération à la fois de la parole et puis aussi, d'après ce que les femmes me racontaient, des pratiques, que j'ai pas été du tout étonnée par, disons, le surgissement de MeToo et de tout ce qui a suivi. Hein. La parole, c'est, je pense que MeToo s'est produit parce qu'il y avait déjà la population française, telle que moi j'ai pu l'appréhender pendant toute cette année.
Une revendication voilà. Sur une sexualité épanouie.
D'ailleurs, pas uniquement une revendication, un témoignage que on était libre, on faisait ce qu'on voulait. Et là, vous parliez justement de la masturbation. Oui. Mais moi, j'ai eu des témoignages dans l'enquête de 2000. Il fallait que je pose la question aux femmes pour qu'elles me disent si elles se masturbaient ou pas. Et là, elles abordaient spontanément les choses. Et elle me racontait énormément de, disons, elle témoignait de pratiques, et pour certaines de pratiques quotidiennes. Bon, il y en a une qui appelle ça sa prière du soir. Il y en a une autre qui me racontait, si vous voulez une anecdote, une jeune qui se masturbe aussi tous les jours, qui me racontait que la première fois qu'elle s'est masturbée, elle avait 15 ans, elle était toute seule chez sa grand-mère un soir, elle avait profité de sa solitude pour pouvoir le faire, et ça a tellement bien marché qu'elle a cru qu'elle avait une crise cardiaque. Et donc, elle a eu très très peur, et elle s'est dit, il faut que j'appelle les pompiers. Puis le temps qu'elle réfléchisse, qu'elle se demande, est-ce que j'appelle les SOS médecins, est-ce que j'appelle le SAMU, etc. Bon, la tachycardie s'est calmée, et le 42 fièvre a diminué, donc elle a fait personne. Mais c'est vrai que quand elle m'a raconté ça, on était morte de rire en imaginant si elle avait appelé les pompiers, les quatre Malabar qui seraient arrivés avec un brancard pour secourir une jeune femme, une jeune fille en train de risquer sa vie.
On le voit bien dans votre enquête, c'est une parole très libre, hein, aussi bien, c'est-à-dire qu'à des questions qui auraient pu paraître plus gênante il y a 7 ans, il y a 17 ans, puisque votre première enquête c'était 2000, y compris sur la sexualité bucco-vaginale, etc.
Ouais, ça aurait été,
aujourd'hui, il y a il y a les mots qui sont là et les histoires qui sont prêtes à sortir et les témoignages. Mais en même temps, si on regarde la presse féminine grand public aujourd'hui, je ne parle pas de tout ce qui se passe sur Internet, mais si on regarde la presse féminine grand public, on s'aperçoit que le plaisir féminin est un sujet qui est peu traité, sauf par des journaux engagés qui se revendiquent féministes, type Marie-Claire, et qui relaient par exemple des études de sexologues nord-américaines ou australiennes sur la jouissance des femmes. Et finalement, il faut une personne de votre stature ou bien d'une grande organisation statistique pour que la sexualité et le plaisir féminin fassent l'objet d'un article dans la grande presse quotidienne, encore aujourd'hui.
Oui, mais en même temps, disons que là, dans ce livre où je raconte et notamment tout ce ressenti de plaisir, parce que les femmes mettent des mots à la fois sur les pratiques, c'est-à-dire elles parlent de cunnilingus, de masturbation, de tout ce qu'il faut, mais en même temps elles mettent des mots sur le plaisir. Elles savent, elles savent le définir, elles savent expliquer comment, pour elles, ça veut dire lâcher prise, ça veut dire perdre la tête, ça veut dire ne plus
mais
contrôler, ça veut dire
beaucoup,
beaucoup de choses.
C'est pas un sujet dans le débat public.
Oui. Mais disons que le livre quand même a été reçu avec beaucoup beaucoup d'ouverture par les télévisions, les radios, et j'ai pu raconter tout ce qu'il fallait sur le plaisir, y compris dans des radios, des télévisions très grand public. Disons que là, mon périple médiatique qui quand même est allé vraiment a été très 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 diversifié et nourri. Montrait que il y avait aucun tabou dans les questions et que on savait comment.
Si ce n'est vivre sans sexualité.
Alors ça c'est autre chose. Ça c'est effectivement ce que j'ai appelé le dernier tabou. C'est ces couples qui vivent ensemble depuis souvent longtemps et qui finiront peut-être leur vie ensemble d'ailleurs, et qui ne sont pas des personnes du cinquième âge. Hein. C'est des gens de 50 ans, même de 30 ans, c'est quand même plutôt des gens à force de l'âge, mais qui n'ont plus de relations sexuelles. Et donc je voulais comprendre comment ça s'installait, comment ça se gérait, et j'ai pu avoir des personnes qui ont témoigné de pourquoi tout d'un coup on se retrouve, c'est progressivement
que le plaisir
féminin. Comment on se retrouve sans relation. Ça je pense que c'est un tabou parce que ça on n'en parle pas.
On n'en parle jamais. Qu'aujourd'hui il faut quand même étaler une forme de bonheur et de bien-être. Merci beaucoup Jeannine Mossu-Lavaux d'avoir été en ligne avec nous, vous êtes sociologue et cette enquête est à retrouver aux éditions La Martinière, la vie sexuelle en France. Merci, très bonne journée à vous.
Très bonne journée à vous.
Merci. Axel Ja, Diretou Diallo. Axel Ja, vous avez écrit « Après lire, écrire et choisir, jouir doit faire partie des droits des femmes ».
Oui, je pense que c'est un droit fondamental, en fait.
Vous êtes bien dans la revendication.
Je suis dans la revendication, mais cette revendication s'inscrit dans un récit personnel qui part de ma mère, pardon, même de mes grands-mères, jusqu'à moi. Et cette affirmation est quelque chose qui est vécu et incarné, oui, absolument.
Et c'est vrai que par rapport aux médias traditionnels, il y a encore une certaine timidité. Mais lorsqu'on arrive sur le terrain des réseaux sociaux, il y a plusieurs choses qui se passent.
Sur votre blog, vous écrivez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème et vous êtes relayé. Mais c'est pas la même chose. Sur Internet, de toute façon, on peut tout dire, tout écrire et on trouve des choses sur n'importe quel sujet.
Et je pense notamment à un compte qui s'appelle, sur Instagram, qui s'appelle Tajoui, qui raconte un petit peu comment une femme, dans un couple, comment elle est tout le temps dans une quête de jouissance et qu'en face, on a un homme qui, parfois, c'est pas sa priorité, en tout cas dans le rapport sexuel. Et on voit que ce compte-là a été plusieurs fois repris, moi je l'ai vu dans certains médias, donc peut-être c'est timide encore, mais c'est vrai qu'il y a une activation des choses, aussi accélérée peut-être par le mouvement MeToo et par toutes les marches, comme il y en a une qui vient d'avoir, qui a eu lieu, nous toutes. Donc tous ces mouvements font que, tous ces événements font que, c'est de plus en plus, ça apparaît de plus en plus dans les médias.
En tout cas, moi je trouve qu'on est encore... Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait dans la légitimité du plaisir féminin. On est encore dans le fameux compte que tu mentionnes, donc le fameux Tajoui, place quand même beaucoup l'homme au centre de la responsabilité du plaisir des femmes, en fait. Et j'ai eu un petit souci, moi, avec ce compte, et mon entourage le sait. Je trouve que c'est un compte qui, pour le coup, parlait très peu de la capacité des femmes à se faire jouir. Voilà.
C'est un parti pris, je pense, de l'auteur, de parler de jouissance, je pense, dans un couple. C'était sa priorité à elle. Mais oui, bien sûr, de toute façon,
je pense que la première jouissance, c'est vis-à-vis de nous-mêmes.
Le plaisir féminin, c'est aussi quelque chose qui renvoie en boomerang la toute-puissance de l'homme aussi. C'est aussi survalorisant pour un homme.
Ça rappelle aussi que le sexe des femmes appartient aux hommes avant d'appartenir aux femmes elles-mêmes.
Pourquoi, Axel Jah, vous avez eu envie de faire parler des femmes noires sur la sexualité?
J'ai eu envie de les faire parler sur l'intimité. Parce que c'était un propos qui était totalement absent. Les concernant, on est habitué à nous entendre sur la discrimination, les inégalités, tout un discours public et sociétal. Mais on n'est jamais à celles qui sommes interrogées sur des questions ayant trait à l'intime et des questions qui sont universelles pour le coup. La parentalité, la construction de soi, l'arrivée des règles, le rapport à sa mère. Et j'avais juste envie de faire entendre, moi, ces paroles-là.
Mais c'est une approche qui peut apparaître assez communautariste. Alors, est-ce qu'elle se justifie par des constantes culturelles malgré la diversité des vies et des origines des femmes que vous avez interrogées?
Mais le fait même que ce soit sept témoignages de sept femmes différentes illustre la pluralité des incarnations et rappelle qu'il existe autant de façons d'être noire que de femmes. Donc je pense qu'on sort très très vite du communautarisme et dans ce qu'elles peuvent raconter les unes et les autres, je rappelle encore une fois, il s'agit de sujets universels qui sont des sujets qui peuvent prêter matière à passerelles avec les expériences vécues d'autres femmes qui ne sont pas noires.
Ouais. Mais sauf que la porte d'entrée sur le sujet du plaisir féminin, dans les interviews que vous avez réalisées, dans la parole des femmes que vous avez recueillies, c'est quand même souvent à partir d'une souffrance, d'agression sexuelle, de complexe par rapport à une éducation qui empêche l'émancipation, non ?
Ah, j'ai pas eu ce sentiment-là.
Toutes les histoires sont quand même pas super gaies, hein.
J'ai pas ce souvenir-là. J'ai plutôt l'impression que ce sont des
femmes
qui s'affirment,
qui dépassent les difficultés qu'elles ont rencontrées.
Hormis peut-être le témoignage, effectivement, de Christine, qui est le dernier témoignage, celui portant sur l'excision, qui est probablement le témoignage le plus solaire de toute la série, qui part quand même de l'histoire d'une femme qui a vécu ce qu'on peut faire de plus atroce à une femme dans son intimité, et qui rappelle quand même que elle a beau avoir subi cette mutilation-là, elle dispose d'un corps éthéré et qu'on ne peut pas lui enlever ce qui lui a été donné. Donc je partage pas vraiment votre avis sur cette analyse.
En tout cas, on donne la parole aux auditrices maintenant et aux auditeurs, évidemment, hein, vous n'êtes pas exclus du débat sur le plaisir féminin. 33 1 84 22 71 71. Est-ce que le plaisir féminin est encore un réel tabou de société chez vous? On donne la parole dans quelques instants à Mélanie. Oh yeah.
Il y a des voisins, c'est maintenant.
Mélanie nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Mélanie.
Bonjour Emmanuel.
Mélanie, alors vous, comment vous vous situez, comment vous ressentez ce débat-là chez vous au Cameroun? Peut-être qu'on va pouvoir vous faire réagir d'ailleurs en même temps sur un message Facebook qui nous a été posté, si je le retrouve. Non, je ne suis pas en train de le retrouver du tout. Je vous laisse la parole et je vais vous... Si, voilà, attendez. C'est Nchoupé qui postait le message suivant. Donc, il est dans le même pays que vous. Et il nous dit, généralement, je pense qu'entre filles ici, chez nous, elles se disent tout quand elles font leur congossa. Parce que contrairement... Ouais. Contrairement à certains pays, le Cameroun est un pays vraiment libre sur beaucoup de sujets, pas de stress, on s'exprime. C'est quoi le congossa?
Alors, le congossa, c'est un peu ces petits commentaires qu'on fait entre nous, les filles, pour raconter un peu ce qui se passe avec les garçons.
C'est ça.
Alors, donc, c'est vrai que le point congossa entre filles, on le fait. Ça, c'est rien à dire, on se raconte, on a fait ci, on a fait ça, c'est bien et tout. Mais il y a un aspect qu'il faut préciser, parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Donc, quand on parle du plaisir féminin, moi, j'entends dans le sens où moi, je dis, j'ai aimé ci, j'ai aimé ça. OK? Donc, mais dans le type de congossa que nous, on fait, ça va plus être ce que le mec a fait et qu'on a apprécié. Mm-hmm. On va plus dire, lui, il a fait ça et c'est bien. Donc, quelque part, il y a encore une gêne à vraiment reconnaître que j'ai fait ça. Et c'était bien.
Ouais. C'est exactement ce que vous disiez, Axel Jas, c'est-à-dire que l'homme est quand même au centre de l'action.
Absolument, on a encore un problème à revendiquer, nous les premières, ce plaisir qui ne serait que le nôtre et les pratiques qui nous amènent à éprouver ce plaisir-là. C'est cette parole-là qui fait encore défaut.
Après, cela peut se comprendre, surtout dans les pays où, à forte dominante musulmane, comme c'est le cas de la Guinée, où il y a une forte emprise religieuse, où la masturbation, où vraiment aller à la quête de son propre plaisir peut être vu comme contre-nature même. Et c'est vrai qu'on apprend à ses filles.
Dans la religion catholique aussi, hein, l'origine, voilà. C'est complètement interdit.
Voilà, hein. Donc est-ce qu'on n'irait pas chercher la réponse là, dans le fait qu'on apprenne justement à nos filles depuis le début que, attention, voilà, le plaisir, c'est quelque chose qui se partage avec quelqu'un. Mmh. Et quand toi, tu fais toute seule, c'est forcément mauvais, c'est mal vu, c'est contre nature.
Ça
et
ne compte
tu
pas.
Peux provoquer la colère de Dieu.
Oui. Ceci dit, on ne fait pas l'émission que sur le plaisir féminin solitaire. Hein. Attendez,
non,
on est bien d'accord. Hein. Parce que là, ça devient très anglais. Quand
mais
même.
C'est ce que disait Marie dans son témoignage. C'est le terreau qui permet d'aller vers l'autre et de partager un rapport épanouissant avec l'autre.
Mais vous, Mélanie, dans votre éducation, on vous a appris à en parler ou pas du tout?
Non, on m'a pas appris à en parler. Dans mon éducation, on m'a pas mis à l'aise sur le sujet. C'est un sujet vraiment tabou. Mm-hmm. Et à l'université, en rencontrant d'autres filles, en rencontrant d'autres cultures, que j'ai été ouverte sur le sujet. C'est mm-hmm. ça, on parle de gens, j'avais 22 ans, 23 ans. Mais vraiment, avant ça, si tu disais sexe à côté de moi, je pouvais tomber évanouie parce que je savais que ça, c'est interdit.
C'est ça.
Maintenant, il faut partir du fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'une femme peut avoir du plaisir.
Y compris dans votre génération, Mélanie.
Y compris dans ma génération.
Vous avez moins de 30
ans.
Moi,
j'en parle avec une cousine, j'ai 30 ans. Et moi, j'en parle à une cousine qui m'a dit, elle ne sait pas que c'est possible d'aimer ça.
Merci Mélanie en tout cas d'avoir appelé. Alors bien sûr, vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Diarretou Diallo, vous avez passé la première partie de votre vie en Guinée. Aujourd'hui, vous êtes en France. Je ne sais pas où vous terminerez votre vie, mais en tout cas, j'aimerais que vous nous disiez, bon, vous faisiez allusion à votre pays où il y a un poids des traditions, un poids de la religion, un poids des conservatismes. Pourquoi vous avez créé un blog collectif guinéen du 21e siècle?
Alors, le guinéen du 21e siècle, c'est un collectif. Mais effectivement, il y a, un blog
à l'origine, voilà. Ou après, je ne sais plus qu'est-ce qui a été au
c'était
départ d'ailleurs.
C'était plutôt à l'origine, c'est une campagne numérique qui a donné naissance à un collectif. Pourquoi on a créé ce collectif? C'est, on est parti du constat que chaque 8 mars, du coup, on allait au Palais du Peuple. En fait, le 8 mars était devenu une journée de réjouissance, alors que d'un point de vue conditions de vie des femmes en Guinée, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on s'est dit, pourquoi ne pas crier notre ras-le-bol? Pourquoi ne pas utiliser les nouveaux canaux de communication comme les réseaux sociaux pour dire vraiment que ça ne va pas encore, qu'il y a à faire. Et on a demandé aux gens vraiment de raconter ce qu'était que leur Guinane du XXIe siècle. Et comme l'initiative a beaucoup mobilisé, on a décidé de pérenniser l'initiative aujourd'hui. Qui, l'une de nos priorités, c'est quand même de lutter contre les mutilations génitales féminines lorsqu'on sait que la Guinée a un taux de prévalence de 97%.
Ouais. Vous avez été surprise par le succès finalement à la fois de vos écrits, des actions du collectif, de la résonance que ça avait dans la nouvelle génération ?
Très honnêtement, oui. Oui, parce que on pensait pas que il y a une idée qui on pense souvent que les réseaux sociaux ça ne peut vraiment que pour raconter les soirées et ne pas avoir comme but ludique. Et donc nous on a montré que du coup les réseaux sociaux pouvaient servir aussi à passer un message, surtout quand les canaux institutionnels ne marchent plus avec les nouvelles générations qui ne regardent plus vraiment la télé, qui passent leur vie presque sur Facebook et Twitter. Donc on était surpris, on s'y attendait pas et en même temps tant mieux. Donc ça, au final, ça a répondu à un besoin qui était là. C'est pas que les jeunes ne veulent pas en parler, c'est pas que les jeunes se désintéressent, c'est qu'on n'a pas, on n'utilise pas les bons canaux pour les toucher en fait. Et c'est surtout ça que la campagne Guinane du XXIe siècle a révélé.
Axel Jha, vous êtes d'accord avec ça?
Je suis en admiration devant votre initiative, elle m'emplit d'espoir, parce que je pense que c'est la preuve que la douleur va cesser d'être ce qu'on se passe en héritage de mère en fille, en fait. Et je pense que c'est vraiment sur ce propos-là, le fait que vous, à un si jeune âge, vous revendiquiez votre droit à éprouver la joie d'être des femmes et des jeunes filles, va certainement changer la donne.
Espérons-le.
Ouais. Alors, évidemment, vous avez cité l'excision. On ne peut pas faire une émission sur le plaisir féminin sans parler de l'excision. Dans quelques instants, on va donner la parole à Amina, une Française d'une quarantaine d'années qui a grandi en région parisienne et qui a été excisée au Mali à l'occasion de vacances et qui a découvert le plaisir féminin au bout d'une longue route. Vous allez découvrir son histoire dans quelques instants. Ça sera juste après Open My Eyes. Et en attendant, bien sûr, vous continuez de nous appeler. Le plaisir féminin est-il un tabou de société chez vous? Qu'est-ce qui se déverrouille dans la parole des femmes et des hommes? Quelles aspirations? 33 1 84 22 71 71. Make a free my mind, make a heat up. Oh man, I'm looking in the mirror. My reflection expression is so tough. Then it's for my vibe, then debris up.
Sneakers with still shoes, five was and no bloody deals in these hoods. Respect the beat, it was honor not to rule, but we chose where we left. Life was a blessing, learning fast in a situation western. Kids having babies, crackheads keep messing, escaping the minutes, so hold it on a second. Playground area, cells of prisons, wasted our lives, now we're living for a reason. Things we did weren't right, they were lessons, cursing, using, abusing, reusing. I'm on the road on my own, I'm on the road all alone. I'm on the ends and the fence, in defense of the dance with the picture of my journal.
On n'y pas chez 7 milliards de voisins sur RFI, on est en direct. Ils chantent Open My Eyes et nous, on débat sur le plaisir féminin. Est-il encore un tabou de société? Tout de suite, on va écouter le témoignage d'Amina, qui est française d'une quarantaine d'années. Elle a grandi en région parisienne, dans une famille d'origine malienne. À l'âge de 5 ans, elle est excisée par sa tante à l'occasion de vacances au Mali. En état de choc, elle rentre en France et puis elle oublie tout ce qui s'est passé jusqu'à l'âge de 15 ans. Et elle a raconté à Alice Milo comment elle a fini par découvrir le plaisir féminin.
Un jour, vers l'âge de 15 ans, comme j'ai des petites douleurs pendant les règles, je décide d'aller voir pour la première fois une gynécologue. À la fin, elle m'a dit « Vous êtes excisée, est-ce que vous le savez ?» Je dis « C'est quoi l'excision ?» Elle m'explique en fait que c'est l'ablation des grandes lèvres et du clitoris. Et je dis « Mais non, c'est pas possible parce que je m'en souviens pas et on m'a jamais fait ça. » Elle m'a dit « Ça devait être dans l'enfance. » Le fait de ne pas avoir de clitoris en soi-même, ça ne me gênait pas, puisque je n'avais pas eu de relation. Je savais à peu près à quoi ça servait, mais pas vraiment, parce que chez nous, on ne parle pas vraiment de sexualité. Ça ne me dérangeait pas plus que ça, mais j'étais très, très en colère contre ma mère de nous avoir fait ça. J'ai commencé à sortir très jeune, vers l'âge de 15 ans. J'ai eu beaucoup de petites amies, mais c'était juste des flirts. Je voulais surtout pas qu'ils me touchent. Je m'attachais pas, du tout, du tout. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon futur mari, le père de mes enfants, et j'ai commencé à m'attacher à lui. J'ai repoussé le moment où j'ai eu une relation sexuelle avec lui parce que je ne voulais pas du tout avoir de relation sexuelle. Je pensais que ça allait me faire mal. Je pensais qu'à la douleur. La première fois que ça s'est passé, j'ai pleuré. Je ne peux pas trop expliquer pourquoi. Mon mari, je ne lui ai pas du tout parlé de l'excision. J'ai dû lui dire 2 ans après. Pour lui, c'était grâce à ça que j'étais sérieuse.
Il n'avait pas remarqué que vous étiez excisée?
Il n'a pas du tout remarqué. Et en parlant avec plusieurs filles, j'ai remarqué que la plupart des hommes, ils ne remarquaient pas. Même des Européens, où là, je me suis dit, bon, eux... C'est sûr qu'ils vont le savoir tout de suite, non? J'ai une copine, elle est excisée, et elle est avec un Français, et il n'a pas du tout vu qu'elle était excisée. Ma vie sexuelle, moi, c'était à la demande. Je le faisais pour lui faire plaisir à lui, mais moi, je n'allais jamais vers lui pour demander. Je ne me posais pas de questions de savoir si j'avais du plaisir ou pas, parce que j'en avais pas. Pour moi, c'était quelque chose qui ne servait strictement à rien, à part faire des enfants. Mais quand je me frottais contre lui au niveau de l'ancien clitoris, la paroi, là j'éprouvais un peu de plaisir. Je me disais, est-ce qu'il me trouve bizarre à faire ça? Mais voilà, c'était pas tout le temps, c'était de temps en temps, rarement. Un jour, je suis tombée sur un reportage où on parlait de la réparation de l'excision. C'était réparable, j'avais jamais entendu parler de ça. C'était le docteur Foldes qui pratiquait une opération pour réparer le clitoris et les petites lèvres. J'en ai parlé à mon mari, qui était tout à fait contre. Il m'a dit non, t'as pas besoin, c'est pas la peine. Et donc, il voulait pas du tout. Je comprends pas, je lui dis pourquoi ça te dérange. Il me fait non, tu le fais pas. Lui, pour lui, dans sa tête, si je me faisais réparer, c'est que j'allais aller voir une autre personne, que j'allais le tromper. Voilà, quand je me suis séparée. À ce moment-là, j'ai décidé enfin de faire l'opération. Là, ça fait depuis le mois de juillet que j'ai été opérée. Ça s'est très bien passé. Quand j'ai fait l'opération, je venais de rencontrer quelqu'un. Donc, j'ai dû avoir une relation avec lui il n'y a pas très longtemps, là. Il y a peut-être un mois. Je ne lui ai pas dit que j'ai fait la réparation. Et ça s'est très, 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 très bien passé. La première fois, j'ai pas ressenti grand-chose, mais c'était déjà beaucoup mieux qu'avec mon époux. Et ensuite, la deuxième fois, j'ai vraiment ressenti du plaisir, et plusieurs fois, en une fois, plusieurs fois. À l'époque, quand j'entendais une femme faire trop de bruit ou crier, je disais, mais c'est quel cinéma qu'elle nous fait, quoi, c'est n'importe quoi. Et là, j'ai vu que je ne pouvais pas me retenir, quoi. Donc ouais, c'est une sensation que je n'ai jamais eue, c'est des frissons, on est déconnecté pendant un moment, quoi. Quand je pense que j'ai loupé ça jusqu'à mes 40 ans, c'est grave, quoi. Donc chacun a droit au plaisir, comme il le veut, comme il le souhaite.
Axel Jat, Diarrhéto Diallo, comment vous analysez le fait que des hommes ne se rendent compte de rien, y compris des Européens?
D'abord, c'est un formidable témoignage. Merci à elle d'avoir eu ce courage de nous en parler. Mais dans un second temps, c'est est-ce qu'on peut constater l'absence d'une chose qu'on ne connaît pas?
Merci.
Beaucoup de gens ne savent pas à quoi ressemble un clitoris, que ce soit en biologie, à l'école, dans la vie courante. On n'est pas sensibilisé à ça. On sait à quoi ressemble une oreille, un nez, mais un clitoris, personne, en général, beaucoup de gens ne savent pas l'identifier. Donc il y a déjà ça, il y a cette absence-là d'information, de connaissance, de démocratisation de ce à quoi ressemble un clitoris. Et ensuite, il y a est-ce que les hommes, ils prennent ces hommes-là dont elle parle, est-ce que c'est tout le monde qui prend la peine de discuter, d'échanger? Et encore moins, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y en a qui prennent le temps de descendre, regarder à quoi ressemble leur compagne
en bas, au niveau de leur vagin. Est-ce que les femmes se regardent elles-mêmes? Et est-ce que les hommes avec qui on partage, ou les femmes avec qui on partage nos rapports sexuels, nous regardent? Donc c'est par ça, moi je...
Je suis absolument d'accord, je pense que méconnaissance...
Les voisins, si vous voulez réagir, il nous reste quelques minutes, c'est le moment de nous téléphoner. Hein, 33 1 84 22 71 71 sur le plaisir féminin.
Je pense que la méconnaissance de l'anatomie féminine est également partagée de part et d'autre. Et que effectivement, le rapport au plaisir, le fait de savoir qu'une femme peut jouir est quelque chose qui ne s'apprend pas, ça ne sort pas de derrière les fagots, il faut qu'on vous l'ait appris. La sexualité humaine est une reproduction, ce n'est pas quelque chose d'inné. On ne vient pas tous au monde avec l'idée qu'on peut jouir en fait.
Direto Diallo, vous êtes guinéenne. Il y a quelques mois, on avait eu un jeune auditeur, vraiment la jeune, hein, dans les 20-25 ans, qui nous avait téléphoné sur un autre sujet et nous disant, mais vous savez, de toute façon, dans notre pays, toutes les filles sont excisées. On sentait dans sa voix, dans son témoignage, qu'il y avait une forme de
résignation.
De résignation, finalement. À quoi ça sert de s'intéresser à ce problème, puisque de toute façon, le moteur ne fonctionne pas, quoi, d'une certaine manière. Mmh. Il y avait quelque chose, ce n'était pas de l'ordre du tabou social, mais vous diriez que dans votre génération, Direto Diallo, il y a cette résignation des jeunes garçons?
Alors, non. Très honnêtement, non. Parce que même au sein du collectif, on a des hommes qui s'investissent à nos côtés pour essayer d'inverser la courbe. Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, on vient de générations qui ont encore une façon de penser la sexualité très passéiste, du coup, qui n'est plus, qui est un peu en déphasage. Et aujourd'hui, on voit, au niveau des nouvelles générations, c'est qu'ils savent que le rapport sexuel n'est pas fatalement que douloureux. Donc, non, ça sert à quelque chose. Oui, ça sert à quelque chose. Et au-delà de ça, moi j'ai rencontré des femmes dans le cadre de nos activités qui avaient été excisées, mais qui nous disaient « je ressens du plaisir ». Parce que les nerfs, ce qu'on ne sait pas, c'est que les nerfs qui se retrouvent au niveau du clitoris, même si le clitoris lui a été coupé, sont tellement forts, tellement résistants, qu'il suffit d'exciter encore... En tout cas, pour certaines personnes,
tout
pour
à fait. Et c'est d'ailleurs un sujet qui est largement abordé dans l'émission Priorité Santé sur l'aspect technique et médical. Je voudrais qu'on donne la parole à une auditrice qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Aminata.
Bonjour.
Aminata, vous avez souhaité vous exprimer dans notre émission parce que vous êtes militante pour les droits des femmes et contre l'excision. Vous êtes à Noisiel, en Seine-et-Marne, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Ouais, on vous écoute, Aminata.
Oui, bonjour les auditrices, bonjour Madame Akselja et Madame Direto Diallo. Je m'appelle Aminata, je suis la présidente de l'association Djamadili qui est située à Noisiel. Mm-hmm. Et en fait, on a 10 pôles d'action, notamment le pôle Mon Jardin Secret.
Ouais.
C'est tout ce qui traite les mutilations génitales féminines, l'excision, le viol et aussi la sexualité en général.
Et alors qu'est-ce que vous observez sur le terrain justement sur la question du plaisir féminin aujourd'hui dans ces populations-là?
C'est très tabou.
C'est très tabou, alors qu'on est sur le territoire français, on est bien d'accord. Hein.
Pourtant, on est sur le territoire français, c'est très tabou, les femmes ne vont pas en parler ouvertement. C'est pour ça qu'on a appelé ce pôle-là Mon Jardin Secret. Voilà, parce que c'est tabou, les femmes, elles n'en parlent pas. Après, il y a toute une histoire, il y a aussi l'histoire de l'éducation sexuelle, le rapport avec les parents, comment les parents ont éduquer leurs enfants face à cela. Et c'est vrai qu'après, nous, on donne aussi la parole aux femmes excisées. Les témoignages d'Amina, oui, moi, j'ai affaire à des femmes qui ont le même témoignage au mot près. Et c'est important de souligner cela, que les femmes excisées aussi, il y en a qui ont du plaisir, mais il y en a qui n'ont pas de plaisir. Et c'est vrai que de passer des années sans plaisir, je trouve quand même que c'est très frustrant. Ouais. Et on est là pour soutenir ces femmes-là.
Ouais. J'aimerais avoir votre avis. Kamel Daoud, célèbre écrivain algérien qui est de la bête noire des islamistes en Algérie, a dit dans une interview « L'orgasme n'est pas un complot occidental ». Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, dans certains milieux en France, parler du plaisir féminin, c'est aussi finalement adhérer à une société occidentale que l'on rejette pour d'autres raisons?
Non, moi, avec l'association, c'est vrai que nous, c'est une association multiculturelle. Et nous, on ne ressent pas ça. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui sont françaises qui n'en parlent pas. Pourtant, elles sont françaises, vraiment, qui sont nées ici, qui ont des parents bretons, voilà, qui sont vraiment françaises. Et puis après, de l'autre côté aussi, on a des femmes d'autres origines qui en parlent ouvertement. Alors moi, je peux pas me prononcer sur cela parce que c'est tellement différent en fait. Ça dépend de l'éducation qu'on donne à nos propres enfants. Même si on sait que bon, en Afrique, c'est plus ou moins tabou, mais il y a des parents qui, il y a des mamans plus particulièrement qui donnent une certaine éducation à leurs enfants. Mais c'est encore très compliqué.
Merci beaucoup Aminata en tout cas de nous avoir appelé. Axel Jaï, Diarretou Diallo, le combat des femmes pour parler du plaisir féminin, pour accéder au plaisir féminin, c'est quand même une aspiration au bonheur individuel. Est-ce que ça peut représenter une menace pour ceux qui souhaitent une société du tout collectif? Parce qu'on peut aussi critiquer cette quête au bonheur individuel, à l'injonction d'ailleurs au plaisir, parce qu'il n'est pas automatique, hein, il faut quand même le reconnaître.
Et puis les paramètres qui prévalent au plaisir sont bien plus nombreux que juste des paramètres physiologiques. Il faut aussi qu'on ait une autorisation à ce plaisir. Et ça s'inscrit aussi dans une histoire familiale. Il y a des choses bien plus compliquées derrière cette question-là. Et moi, je pense que oui, effectivement, le premier bastion de l'émancipation pour nous les femmes, c'est vraiment l'intimité. Et à plusieurs reprises, on l'a entendu là, à propos des témoignages des unes et des autres, il faut vraiment savoir que cette transmission, elle est taboue. Nous n'en parlons pas, en fait, entre mère et fille, nous n'en parlons pas dans les familles. Et l'une des raisons d'être aussi de ce podcast, c'était mettre en avant aussi que pendant qu'on se retrouve fétichisé de manière
artificielle
finalement. Dans l'hypersexualisation des personnes noires, en fait, quand vous rentrez dans nos intimités et que vous parlez aux unes et aux autres, vous vous rendez compte que on n'évoque pas ces questions-là entre nous, en fait. En tout cas, dans le cercle familial, ce n'est pas quelque chose qui se transmet.
Vous, les unes et les autres, justement, Diarretou Diallo, dans quelle éducation au corps et à la féminité vous avez grandi, vous, en Guinée ?
En Guinée, en général, c'était très tabou. Mais moi, je viens d'une famille où j'ai toujours pu discuter, échanger. Ma mère était médecin et mon père est architecte. Donc voilà, je viens d'une famille où j'ai pu dire ce que je pensais, où j'ai pu poser des questions. Après, je n'avais pas tout le temps des réponses, mais au moins je pouvais les poser.
Pardon de vous poser la question de manière très directe, mais ça veut dire que vous n'avez pas été excisée?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme j'étais une césarienne, au moment où on a assumé que mes parents voulaient m'exciser, alors ma mère était endormie, donc on m'a amenée pour l'excision. Et juste, j'ai pu être tirée in extremis par une tante qui passait par là et qui a pu me sauver, si on veut. Et au-delà, pour revenir à votre question du plaisir collectif, je veux dire, pour être collectif,
enfin, du plaisir individuel.
Du plaisir individuel
versus.
Parce que c'est pas égoïste, oui. Tout ça. Mais pour être heureux tous ensemble, il faut qu'on le soit d'abord individuellement. Je veux dire, si on est frustré en tant qu'individu, on peut pas.
Non, mais je reprenais des arguments de certains conservateurs que vous entendez, non ?
C'est pas très logique.
Oui. L'argument selon lequel nous sommes blanches et nous évoquons des questions de blanches, oui, je le connais bien. Ouais.
Et moi, je veux dire, à chaque fois que je fais des tribunes en rapport avec l'excision, quand je viens lire les commentaires en bas, je suis taxée de pute occidentale qui veut détourner nos filles et ainsi de suite, parce que justement, oui, il y a cette notion-là et ça reste très difficile, ouais. Effectivement.
Et en même temps, aujourd'hui, si on regarde le quotidien des femmes, y compris dans un pays comme la France, c'est quoi ? Les femmes font 65% du travail familial, maison-enfant, dans un pays où les femmes ont un taux d'activité très important. Donc ça veut dire que aujourd'hui, à l'heure où la France fait ses comptes en termes de pouvoir d'achat, etc., quelle place pour le plaisir féminin dans la vie métro, boulot, dodo ? Parce que c'est aussi ça la réalité.
C'est aussi ça la réalité, et en même temps, nous sommes à la fois le problème, enfin en tout cas notre sexe est le problème pour un grand nombre de sociétés, et la solution, et je pense qu'à un moment donné, c'est à nous d'inverser la donne et peut-être d'être les premières à aimer être femme, enfin à aimer notre sexe au sens propre et figuré. Aimer le sexe, la vulve là qui est entre nos jambes, et aimer appartenir au genre féminin. Peut-être que si la joie résulte de cette appartenance-là, on sera plus nombreuses aussi à incarner un féminin joyeux. Quoi.
Et si on n'a pas le temps, il faut le créer. Je veux dire, dans une routine,
on reste quand même maître de notre emploi du temps, il faut le créer. C'est comme pour tout, il faut avoir le temps pour dîner. Pour
voilà. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci en tout cas à toutes les deux, Axel Jean et Diretou Diallo, pour le collectif guinéen du 21e siècle. Axel Jean, on vous retrouve sur internet parlonsplaisirféminin.com et Me, My Sex and I, moi, mon sexe et moi. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins. Décidément, l'émission est estampillée Vivre ensemble. On parlera des bonnes manières, de la politesse, du savoir-vivre, se saluer, manger, offrir, remercier, se vêtir. Les stages font carton plein pour apprendre à être bien élevé. Alors, à quoi ça sert? À faire des affaires, à apporter de la fluidité au vivre ensemble. On en discute demain en direct.